Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiech et Anne Albertson avec vous. Au sommaire de ce mardi 16 février 2016, Anne.
En République démocratique du Congo, tensions et incertitudes, alors que des opposants au président Kabila ont appelé à une grève générale aujourd'hui.
En Ouganda, à 2 jours des élections présidentielles, des heurts entre l'opposition et la police ont fait 1 mort.
Au Soudan, affrontement entre forces gouvernementales et rebelles, mais les versions divergent.
Et puis Angélique Kidjo a reçu son 3e Grammy hier pour son album avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
En République démocratique du Congo, crainte de violence donc à Kinshasa, la capitale. Ce 16 février marque l'anniversaire de la répression meurtrière de la marche des chrétiens de 1992, partie des églises catholiques de Kinshasa, après la messe dominicale pour réclamer la démocratie sous la présidence du général Mobutu. L'épiscopat avait d'abord annoncé son intention d'organiser des marches mémorielles le 16 février dans tout le pays, puis s'est rétracté, craignant une récupération politique, et a appelé les fidèles à participer à des messes commémoratives dans les églises. La majorité politique ne manifestera finalement pas, a-t-on appris hier, faute d'autorisation de l'hôtel de ville. Une coalition d'opposants à M. Kabila a de son côté appelé à une grève générale dans toute la RDC pour adresser un avertissement au chef de l'État. Interrogé par l'AFP, le ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa, Emmanuel Akweti, a affirmé que le gouvernement de la capitale n'avait autorisé aucune manifestation mardi sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa et a assuré n'avoir reçu aucune notification de manifestation de la part de qui que ce soit. Nous reviendrons sur ce sujet en deuxième partie de cette émission.
En Centrafrique, les Nations Unies enquêtent sur de nouvelles accusations d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle portées contre des casques bleus de la MINUSCA, leur mission en République centrafricaine. Selon un responsable des opérations de maintien de la paix, l'ONU est au courant de ces accusations depuis quelques jours seulement et contacte les pays dont sont originaires les suspects avant de les rendre publics. Certaines victimes sont mineures. Le porte-parole n'a pas précisé la nationalité des accusés, mais il a détaillé des mesures déjà prises contre des unités du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo soupçonnées d'abus sexuels. Sur 69 cas d'abus sexuels présumés recensés l'an dernier par l'ONU au sein de ses 16 missions de paix dans le monde, 22 cas concernaient la MINUSCA.
En Ouganda, à 2 jours de la présidentielle, la tension monte d'un cran entre l'opposition et la police. Hier, une personne a été tuée lors de violents heurts à Kampala. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et brièvement arrêté Kizza Besigye, l'un des principaux opposants au président sortant, Yoweri Museveni. Des détails avec Eric Manirakiza.
La police ougandaise qualifie de confusion des affrontements avec les partisans de Kizza Besigye. Le chef du Forum pour le changement démocratique, FDC, voulait tenir son meeting politique dans le centre de Kampala. Fred Enanga, un porte-parole de la police, a affirmé que des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour maîtriser une foule belliqueuse qui, selon lui, a défié les directives de la police sur la manière dont cette foule était autorisée à se déplacer en ville. La police reconnaît un mort, tandis que l'opposition parle de 3 personnes abattues. Durant ces violents heurts, Kizza Besigye a été brièvement interpellé avant d'être relâché quelques minutes après. L'opposition n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique pour l'élection de jeudi et alignera 7 candidats face à Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et candidat à un 5e mandat.
Au Soudan, les forces gouvernementales et rebelles se sont affrontées aux environs d'une base militaire dans l'état du Kordofan Sud. Les deux parties présentent toutefois des versions contradictoires et difficiles à vérifier. Les forces de l'ordre soudanaises autorisant rarement les journalistes à se rendre dans cette province frontalière du Soudan Sud. La branche nord du mouvement de libération du Soudan, SPLMN, combat l'armée du président Omar el-Béchir dans les états du Nil Bleu et du Kordofan Sud depuis 2011, a indiqué dans un communiqué depuis 2011. Et cette branche a indiqué dans un communiqué que que les combats se poursuivaient et que les rebelles ont détruit 7 véhicules militaires, tué 60 soldats et perdu 7 de leurs combattants. Une version des faits contestée par l'armée soudanaise qui affirme que le SPLMN a pilonné sa base pendant une semaine sans qu'il y ait eu de pertes à déplorer et ajoutant que de nombreux rebelles avaient été tués.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'espoir d'une trêve semblait s'éloigner lundi en Syrie, où 50 personnes, dont des enfants, ont été tuées par des missiles tirés sur des hôpitaux et des écoles. L'ONU dénonçant des violations flagrantes du droit international. Des détails avec Tatiana Mosso.
Les attaques contre 5 établissements médicaux et 2 écoles dans les provinces septentrionales d'Idleb et d'Alep jettent une ombre sur les engagements pris par le groupe de soutien international à la Syrie sur une cessation des hostilités, a estimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Lundi, un hôpital soutenu par Médecins sans frontières, MSF, dans le nord-ouest du pays, a été pris pour cible par des frappes aériennes qui ont tué au moins 7 personnes, tandis que 8 membres du personnel étaient portés disparus selon l'ONG. Les frappes étaient vraisemblablement russes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'UNICEF a indiqué que 4 hôpitaux, dont 2 soutenus par l'organisation, avaient été frappés. 2 écoles dans la ville d'Azaz ont aussi été bombardées et 6 enfants y sont morts. Les États-Unis ont dénoncé ces bombardements, fustigeant une nouvelle fois la brutalité du régime du président syrien Bachar al-Assad et son allié russe qui mène une campagne de frappes aériennes en Syrie depuis le 30 septembre. Washington a par ailleurs exhorté lundi la Russie et la Turquie à éviter toute escalade au moment où le ton devient de plus en plus acerbe entre Moscou et Ankara, témoignant de l'internationalisation du conflit syrien.
Les députés français sont appelés mardi à prolonger jusqu'à fin mai l'état d'urgence en France, une semaine après un vote massif du Sénat et alors que le gouvernement vient de prédire d'autres attaques d'ampleur en Europe. Le vote de l'Assemblée nationale est prévu à 15h15 GMT. Critiqué par le Conseil de l'Europe qui a regretté des abus de la police, une partie du monde du droit et des associations, notamment la Ligue des droits de l'homme, l'état d'urgence instauré après les attentats de Paris, qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés, est soutenu par la majorité de la classe politique française. Ce régime d'exception permet notamment au ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence toute personne dont le comportement est jugé comme une menace pour la sécurité et l'ordre public et d'ordonner des perquisitions à domicile, de jour comme de nuit, sans implication de la justice.
Et lutte contre le terrorisme toujours, le Canada va resserrer ses règles d'entrée sur son territoire dès le 15 mars, ce qui obligera les voyageurs originaires de pays habituellement exemptés de visa, tels que les États européens, à demander une autorisation de voyage électronique payante. L'équivalent canadien du programme de dispense de visa, ESTA, mis en place par les États-Unis depuis 2008, l'AVE concerne les citoyens de plus d'une cinquantaine de pays et territoires qui devront donc désormais s'enregistrer en ligne et défrayer des coûts de 7 dollars canadiens. Une fois le formulaire électronique rempli, l'autorisation de se rendre au Canada ou simplement d'y transiter sera adressée par courriel et sera en vigueur pendant 5 ans.
Sommet sans précédent depuis hier lundi en Californie entre le président Obama et ses homologues de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Le point avec Jean-Roger Bion.
C'est la première fois que les chefs d'État des pays de l'ASEAN se retrouvent aux États-Unis. Ils viennent d'Indonésie, de Malaisie, de Philippines, de Singapour, de Thaïlande, de Brunei, du Vietnam, du Laos, de Myanmar et du Cambodge. La Chine ne fait pas partie de cette association. Le chef de l'exécutif américain entend à travers ce sommet réactiver l'influence des États-Unis dans la région Asie-Pacifique où les revendications territoriales de la Chine ont suscité des préoccupations internationales ainsi que des tensions avec les pays de l'ASEAN. Selon la Maison-Blanche, ces pays se classent au quatrième rang parmi les partenaires commerciaux des États-Unis. Les questions économiques seront donc au centre des discussions, notamment l'innovation et l'entrepreneuriat pour promouvoir la prospérité dans la région. Le combat contre le terrorisme est aussi à l'ordre du jour, suite aux attaques contre la capitale indonésienne Jakarta le mois dernier. Ces attaques, les premières depuis 6 ans, ont été attribuées à l'État islamique.
Enfin, à Los Angeles, les Grammys ont été remis hier soir. Kendrick Lamar a été récompensé sans surprise. Il a remporté le prix du meilleur album rap de l'année pour son album To Pimp a Butterfly. Dans la catégorie meilleur album world, c'est Angélique Kidjo qui s'est vue décerner un Grammy, le troisième de sa carrière, pour son album Sings, une collection de ses chansons interprétées avec l'orchestre philharmonique du Luxembourg. C'est un album de rencontres. Ce qui m'étonne de plus en plus, c'est l'ouverture d'esprit des Grammys par rapport aux autres entités artistiques. Ils s'ouvrent au reste du monde, a-t-elle déclaré lors d'un entretien à l'AFP au Staples Center où se déroulait la cérémonie. L'an dernier, Angélique Kidjo avait déjà gagné dans la même catégorie pour Eve, un hommage aux femmes d'Afrique. « Je veux dédier ce Grammy à tous les musiciens traditionnels d'Afrique, à mon pays » et la jeune génération, a déclaré la chanteuse qui est originaire du Bénin. L'Afrique monte, l'Afrique est positive, l'Afrique est joyeuse, a conclu Angélique Kidjo.
Tout de suite, c'est la Minute Éco, Eric Maniarakiza.
La Côte d'Ivoire a devancé l'Inde dans la production de la noix d'ocajou brute. Désormais, le pays de Ouattara détient 25% sur une production mondiale de 2,9 millions de tonnes. Le prix d'achat par kilogramme a été fixé à 350 francs CFA contre 275 francs CFA l'an passé pour cette activité qui emploie 1,5 million de personnes directement ou indirectement et compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. La noix d'ocajou produit de l'amande utilisée en cuisine et dans les produits cosmétiques. La coque de la noix brute contient un liquide utilisé comme fluide pour les systèmes de freinage des avions. La pomme d'ocajou, elle, sert à produire du vin, de la liqueur, du sirop, de la confiture et du jus. La Côte d'Ivoire n'a pas d'industrie de transformation, mais envisage à créer une école-usine avec l'appui du Vietnam. 11 grandes entreprises mauriciennes participent depuis hier, ici aux États-Unis, à la foire du textile et de l'habillement, la plus importante exposition tenue à la côte ouest de Las Vegas. L'enjeu, pousser l'extension du marché qu'offre AGOA jusqu'en 2025. Entre janvier et septembre 2015, l'île Maurice a généré 5,2 milliards de roupies provenant de ses exportations vers les États-Unis pour les textiles et vêtements.
Merci Eric Maniarakiza. Place au sport avec Bagassi Koura. Alors Bagassi, Hervé Renard est de retour sur le continent?
Oui, si l'on en croit la presse sportive, le double champion d'Afrique, d'abord avec les Chipolopolo de Zambie et l'année dernière avec les éléphants de Côte d'Ivoire, débarque au Maroc pour diriger les Aigles de Carthage. Hervé Renard sera présenté à la presse ce matin à Rabat, selon la fédération marocaine qui n'a toujours pas confirmé le choix de Renard.
Et en football, huitième de finale aller de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, les Portugais du Benfica reçoivent le Zénith Saint-Pétersbourg. À Paris, le Paris Saint-Germain reçoivent Chelsea Football Club au Parc des Princes. Si l'on accepte l'international ivoirien Serge Aurier, mis à pied, l'entraîneur Laurent Blanc du PSG pourra compter sur l'ensemble de ses joueurs contre Chelsea.
Justement, concernant Serge Aurier, Laurent Blanc ne digère pas les insultes de l'attaquant ivoirien.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a indiqué lundi avoir très mal pris les propos injurieux de Serge Aurier qui ont fait polémique et ont déjà valu, on le disait tout à l'heure, une mise à pied à titre conservatoire. Je trouve ça pitoyable, a poursuivi l'entraîneur, alors que l'international ivoirien de 23 ans a notamment traité son entraîneur de mots inacceptables dans une discussion avec des internautes samedi soir sur l'application Periscope. Je me suis vraiment engagé auprès de ma direction pour le faire venir et vu ce que j'ai vu, les remerciements que j'ai reçus, je trouve ça pitoyable, a développé Blanc. La polémique autour du dérapage d'Aurier tombe au plus mal alors que le Paris Saint-Germain reçoit ce soir Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
En football, Joël Matip rejoindra le Liverpool de Jürgen Klopp à la fin de la saison.
Oui, l'international camerounais de Schalke, Matip arrivera en fin de contrat en juin. Plusieurs clubs allemands et anglais avaient montré leur intérêt pour ce grand joueur. 1m95, âgé de 24 ans, Liverpool n'a pas donné de précision sur la durée de son contrat à Anfield, qui pourrait être de 4 ans selon les médias anglais.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous. Là, tout de suite, place au dossier du jour. La coalition des Congolais de la transition, la CCT, souhaite obtenir le départ du président Joseph Kabila de gré ou de force. C'est ce qui justifie son soutien à la journée morte décrétée par les forces acquises au changement, journée prévue ce mardi en République démocratique du Congo. Pour en parler, John Linden a joint Léon-André Katamboué, vice-président de la CCT, qui revient tout d'abord sur ce que son mouvement reproche au gouvernement.
Le peuple est en train de souffrir, la pauvreté est en train de continuer et il n'y a pas vraiment une solution. Alors le peuple en a marre. La coalition des Congolais pour la transition a une vision développementale.
Alors vous avez décidé de soutenir la journée ville morte décrétée ce mardi 16 février par toutes les forces acquises au changement. Qu'est-ce qui justifie ce soutien ?
Commémorer l'anniversaire de nos martyrs. Nous sommes là pour soutenir toutes les forces vives qui veulent que la journée soit une ville morte. La coalition des Congolais aussi est pour cela parce que nous sommes en train de commémorer l'anniversaire de nos martyrs.
Alors, vous exigez aussi le départ anticipé de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt à laisser le pouvoir?
Il doit accepter parce que vraiment tous les signes qui montrent qu'il est déjà vomi par le peuple sont déjà là. Donc il doit s'enlever. Pourquoi accepter-t-il d'aller dans des conditions comme celle de Mobutu? Ce n'est pas bien. Il est encore trop jeune. Il avait eu la chance de travailler et il n'a pas pu développer le pays. C'est parce qu'il ferait mieux qu'il soit conseillé et laisser le pouvoir et donner la chance à la coalition des Congolais pour la transition pour donner une nouvelle vision à ce pays.
Et vous dites que s'il ne part pas volontairement, vous allez le forcer à partir de force. Comment cela va se passer?
Mais ça, c'est normal. Parce que si vous n'acceptez pas ce que la population vous dit, la population va vous goûter dehors. Ça s'est fait dans plusieurs pays africains. Vous avez vu Blaise Compaoré. Il est resté au pouvoir et le peuple l'avait déjà voulu, mais il n'avait pas voulu partir. Mais en fin de compte, il est parti. C'est ainsi que d'autres dictateurs africains doivent voir et aussi comprendre que même si vous forcez la nature, mais la population un jour dira non.
Et vous dites que si Joseph Kabila partait, vous allez instaurer une transition pacifique. Est-ce que la paix ne commence justement pas par un dialogue franc avec M. Kabila et toutes les parties en conflit?
Non, nous ne pouvons même pas parler du dialogue parce qu'il y a eu plusieurs dialogues et nous savons les résultats. Non, mais qu'est-ce qui prouve que le dialogue que Kabila va organiser sera fin? Parce qu'il en a déjà organisé plus de 2 ou 3 qui n'ont jamais été fins. Alors, s'il voulait organiser un dialogue fin, il pouvait le faire depuis 2011.
Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles? M. Kabila pourrait mettre à votre poursuite l'armée, la police, lors des villes mortes de ce mardi.
Mais chaque jour, le gouvernement en place est en train de tuer le peuple. Le peuple n'a plus peur. Chaque fois pour qu'un dictateur puisse s'en aller, il fallait le courage du peuple. S'il va tuer aujourd'hui, demain, il ne va pas tuer.
Léon-André Katamboué, vice-président de la coalition des Congolais de la transition, il répondait aux questions de John Linden.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Fin hier lundi au Congo-Brazzaville de l'inscription sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Pendant les 30 jours qu'a duré l'opération, les observateurs ont remarqué une nette affluence des partisans de l'opposition. Reportage tout de suite à Brazzaville de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Pendant un mois jusqu'à hier lundi, ils étaient toujours très nombreux à se faire inscrire sur les listes électorales. À Bakongo, Makelekele, Infilou, les quartiers de Brazzaville réputés fiefs de l'opposition, des jeunes habitués au boycott et à l'abstention, se donnent aujourd'hui de bonnes raisons pour voter.
Je demandais même à ma femme de rester à la maison parce que les jeux étaient faits d'avance. Mais cette fois-ci, je suis motivé. Après avoir entendu le discours de l'opposition qui a demandé aux gens de se faire recenser, cette fois-ci, au lieu de boycotter les élections comme d'habitude, il est mieux, disons, aux gens de participer aux élections.
Depuis le matin, depuis 10h, 9h, c'est comme il y avait tellement beaucoup de gens.
Nous sommes décidés au Sénat tout moment pour faire triompher le CODEA.
Jeanne Monique, une mère de famille à Bakongo, pense même que l'heure du changement a enfin sonné.
Mais non, parce que nos enfants ne travaillent pas. Hein? J'ai mon fils qui a maintenant 25 ans. Il ne fait rien. Je le fais nourrir et son petit. C'est pourquoi je suis venue pour que le pays part en avant. Hein? Tout le temps, c'est comme ça.
À Talangaï et à Wenze, fief du PCT, le parti au pouvoir, l'heure est aussi à l'éveil. Il faut pousser tout le monde à s'inscrire sans aucune excuse.
Par rapport à mon âge, j'ai l'habitude de voter. Là, je suis venu seulement pour mon fils, qui vient à peine d'avoir 18 ans. J'ai pris l'engagement de que je vienne moi-même l'inscrire. Je suis content pour qu'il vote maintenant. C'est un devoir de tout citoyen.
Avec le recul, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila, livre, lui, cette analyse.
Cette fois-ci, c'est vraiment le contraire. Les jeunes sont très déterminés. Et je pense que les événements que nous avons vécus avant le référendum, la forte mobilisation avant le référendum, est en train de faire son chemin. Ces jeunes et les leaders politiques espèrent que vraiment dans les urnes, ils peuvent mettre en difficulté le président sortant.
Habitante de Mongali, au centre de Brazzaville, cette femme souhaite un scrutin calme et apaisé.
Je suis contente de voir mon nom et je veux que ça passe vraiment amiablement. Celui qui gagne, gagne. Celui qui ne gagne pas, bon, on ne peut rien, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi.
Il faut noter par ailleurs que les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 25 février pour s'y déclarer. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Au Cameroun, la vie des réfugiés n'est pas simple. Que vivent-ils et comment vivent-ils? Idé-Sandrine Nyamga a interrogé une réfugiée centrafricaine installée au Cameroun depuis 5 ans.
La ville de Douala, au Cameroun, compte 10 000 réfugiés. Le dernier décompte effectué par le Haut Commissariat des réfugiés affiche ce nombre. Nous sommes en 2010. Seulement au regard des violences qui ont cours dans les pays voisins, le nombre s'est certainement accru. Odile Kongaye fait partie de ceux-là. Âgée de 40 ans, cette dame, au regard à la fois joyeux et interrogatif, a fui les violences en République centrafricaine, son pays pour se retrouver à Douala, la capitale économique du Cameroun, à la recherche d'un environnement de quiétude.
Toi-même, tu sais qu'il y a la guerre chez nous. Bon, nous qui voulons la paix, là, nous qui cherchons la paix, là. On est obligé de quitter le pays pour chercher là où on peut trouver la paix, non?
La vie n'est cependant pas facile pour cette mère de deux enfants. Trouver du travail relevant d'un exploit qu'elle n'a pas encore pu réaliser.
C'est difficile pour avoir le travail au Cameroun. Peut-être les petits boulots, mais pas les vrais travaux. Moi, par exemple, j'ai le BTS en informatique. Je suis programmeur, mais je suis ici plus de deux ans. Je n'ai pas trouvé du travail. Je fais que dépenser les petits économies que j'ai fait chez moi là. Donc, c'est inutile de rester ici. J'attends la paix. Dès qu'il y aura la paix chez moi, là, je rentre avec les enfants. Parce que mon mari est resté là-bas. Je fais quoi ici?
Du coup, nourrir sa famille et s'occuper d'elle sont des résultats de calculs quotidiens.
On fait comment? On gère ça. Comment on peut le faire, non? Par exemple, on achète 10 litres d'eau aujourd'hui. On va gérer ça jusqu'à demain. Et puis la nourriture, souvent on prépare pour deux jours. Les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils font ça le soir, ils peuvent prendre la bouillie comme ça, là, parce qu'on est mieux chez soi. Ici, on n'est pas chez nous.
Pour Odile, vivre hors de son pays signifie faire des concessions et quelquefois des compromissions pour éviter de s'attirer des ennuis.
Moi, chez moi, quand je sors là, je salue seulement les voisins. Bonjour. Quand je dis bonjour, bonjour, là, c'est pour sortir. Parce qu'il y a la xénophobie aussi. Il y a ça. Quand on vit à l'extérieur, il y a la xénophobie, on ne cherche pas de problèmes. Quand on vit à l'étranger, ce n'est pas pour aller encore chercher des problèmes, parce qu'on a plus de problèmes là-bas. Si on vient ici, là, ce n'est pas pour chercher des problèmes, c'est pour avoir la paix.
Cet analyste programmeur de 40 ans relève surtout la difficulté que les autres, certains Camerounais en l'occurrence, ont du mal à accepter les étrangers. Même si c'est une situation qu'elle accepte avec beaucoup de philosophie, elle espère que la grâce divine permettra un retour à l'ordre.
Parce que d'autres ont accepté les Centrafricains, d'autres n'ont pas accepté les Centrafricains. Ceux qui n'ont pas accepté les Centrafricains, là, que Dieu leur donne la paix d'accepter les Centrafricains comme leurs frères. Et nous, les Centrafricains aussi, qui sont ici, là, il faut qu'on soit, en tout cas, La main qui demande est toujours en bas. Il ne faut pas être au-dessus.
Du fait du climat de sécurité délétère en Afrique, le Cameroun compte déjà plus de 100 000 réfugiés, disséminés notamment dans les régions du littoral, du centre, du nord de l'Adamawa et surtout de l'extrême nord, où un nombre important de réfugiés a été enregistré ces deux dernières années. Les populations fuyant les exactions commises par la secte Boko Haram au Nigeria voisin. Et de Sandrine Nyamga, Douala, Cameroun, Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le climat politique semble s'envenimer pour les prochains mois à Washington. Cette fois, la bataille politique entre les républicains au Congrès et le président Barack Obama porte sur son droit de nommer dès à présent le remplaçant à la Cour suprême du juge Antonin Scalia, décédé pendant le week-end. Pour les opposants à M. Obama, il devrait plutôt laisser ce choix à son successeur. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Le président doit terminer son deuxième et dernier mandat à la Maison-Blanche dans moins d'un an. Et Barack Obama a dit clairement son intention de soumettre en temps opportun un nom au Sénat pour remplacer M. Scalia, dont la mort soudaine intervient au milieu d'une campagne électorale intense pour la présidentielle de novembre 2016. La Constitution des États-Unis, a-t-il rappelé, lui a donné ce droit et il entend s'acquitter de son devoir. Mais Mitch McConnell, chef de file de la majorité républicaine au Sénat, a d'ores et déjà déclaré que l'électorat devrait avoir voix au chapitre à travers le président qu'il élira en novembre et qui prêtera serment en janvier 2017. Deux sénateurs républicains qui briguent l'investiture de leur parti, Ted Cruz du Texas et Marco Rubio de Floride, ont exprimé la même position et se sont jurés de s'opposer énergiquement à tout candidat proposé par le président pour la Cour suprême. Pour leur part, les démocrates soulignent qu'il ne faudrait surtout pas laisser le siège de Scalia vide pendant un an ou plus. Il faut dire que le défunt était incontestablement le champion des conservateurs à la Cour suprême et sa disparition et son remplacement éventuel par un juge libéral pourrait rompre l'équilibre idéologique qui, avec Scalia, était en faveur des conservateurs 5 contre 4. Le président Obama a déjà choisi 2 des 9 juges de la Cour suprême depuis son accession à la Maison-Blanche. Les républicains qui contrôlent la Chambre haute tout comme la Chambre basse pourraient bien laisser languir cette nomination et attendre simplement que M. Obama termine son mandat sans agir sur le choix qu'il leur aura soumis. Mais les alliés démocrates du président accusent déjà les républicains d'obstructionnisme et pourraient forcer M. McConnell à au moins laisser le Sénat examiner la nomination, quitte à la rejeter éventuellement. Selon des analystes, le président pourrait proposer le nom d'un des 2 juges de cour d'appel dont la nomination a été approuvée à l'unanimité des membres du Sénat. Il s'agit de Sri Srinivasa, qui deviendrait ainsi le premier Indien américain de la Cour suprême, et de Jane Kelly. Parmi les autres possibilités, la ministre de la Justice Loretta Lynch et le sénateur du New Jersey, Cory Booker. Les analystes se demandent aussi si le président cherchera surtout à faire entériner son choix en proposant quelqu'un qui bénéficierait du vote d'au moins quelques parlementaires républicains. Il pourrait en revanche suggérer quelqu'un plus proche de ses vues de centre-gauche qui serait vraisemblablement rejeté, mais dont le rejet pourrait galvaniser la base démocrate lors des scrutins présidentiels et législatifs de novembre et aboutir à la reprise des 2 chambres du Congrès par son parti.
C'est avec la musique d'Angélique Kidjo, rappelons-le, lauréate du meilleur album World, meilleur album monde, des Grammy Awards, que nous nous quittons. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, à la console Daryl Smith, et avec vous à la présentation, Anastasie Tudiech. Retrouvez-nous sur Facebook et pour l'information 24h sur 24, rendez-vous sur voafrique.com. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Pavio será eso ñañizo que vaya di juegare le mojibana pero puedo sentire no desearé la bañose
me subola na mwa benena lololo na vovo e clausera.